Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, la colonie aura donc la guerre. Combien vers 1680 en ont pu prévoir la durée et la gravité? Cette guerre s'engage en des conditions on ne peut plus défavorables. En 1682, après d'interminables chicanes, le gouverneur Frontenac et l'intendant Duchesneau sont tous deux sèchement rappelés. Coup de théâtre, qui en suit bien d'autres, où ce querelleur de Frontenac a pris plus que sa part et qui laisse dans la colonie de malheureuses divisions. Son départ n'en reste pas moins un malheur. Peu fait pour la simple administration, forme pour lui d'inaction, ce prince de la querelle n'en est pas moins doué plus que personne pour la politique extérieure et les opérations militaires. Chef, manieur d'hommes, il excelle à démêler et pacifier les conflits indigènes. Sur les Indiens et sur les colons, il jouit d'un égal prestige. Les événements requéraient un homme d'une habileté plus qu'ordinaire. Frontenac est remplacé par un incapable, le gouverneur Joseph-Antoine Lefebvre de la Barre, homme de robe, qui s'est fait homme d'épée ou plutôt de marine. On le voit d'abord, impuissant à se décider pour la guerre ou pour la paix. Puis, tout à coup, en 1684, il entreprend contre les Iroquois une expédition de grand style à la mode de Tracy. Son dessein est bien de s'en aller faire une démonstration de force, elle tourne en démonstration de faiblesse. Son camp, envahi par la maladie, manquant de vivres, berné par le subtil ennemi, là-bas conclut à la baie de la famine au sud du lac Ontario un traité humiliant. « Paix honteuse !» s'écriera le roi. Le pauvre chef d'armée a virtuellement abandonné à leurs mortels ennemis les Illinois, vieux alliés des Français, et il n'a pas même attendu, pour lever le camp, l'arrivée d'une troupe de 150 Français et de 500 sauvages, rassemblés dans l'Ouest sur ses ordres par l'adjurantais du lutte Nicolas Perrault. La barre est rappelée. Le marquis de Denonville le remplace en 1685. Brave homme celui-ci, excellent administrateur, il ne lui manque pour la guerre que les qualités de l'homme de guerre, ce dont d'ailleurs il saura convenir loyalement. Le nouveau venu se révèle en contraste parfait avec ses prédécesseurs. Autant Frontenac était hautain, impulsif, là-bas maladroit, fanfaron, autant Denonville paraît circonspect, modeste, mesuré, trop mesuré. C'est avec lui que débute le conflit iroquois. S'est-il jeté, ainsi qu'on l'a dit, dans une guerre brusquée? Personne, moins que Denonville, ne se fait illusion sur la puissance redoutable du barbare. Nous savons déjà par quelle combinaison stratégique, au prix de quel déploiement de forces armées, il croyait qu'on pût le vaincre. Le premier malheur de Denonville, c'est de recueillir une succession affreusement gâtée et de se trouver à l'un de ces confluents historiques où les hommes n'ont que faire de mater les événements. Pour la guerre qui s'en vient, il trouve le pays dans une impréparation totale. Dans les côtes ou campagnes, pointe forte, palissadée, nul abri, pour mettre à couvert gens et bestiaux contre une guérilla indienne. Québec, Montréal, Trois-Rivières, pas davantage fortifiées, villes toujours ouvertes. Peu de troupes et en mauvais état, les milices coloniales, plus aptes que les troupes d'Europe à la guerre indienne, peu ou mal armées. Et par-dessus tout, les alliés sauvages, ces mercenaires indispensables, eux aussi mal fournis d'armes au reste, dégoûtés de l'alliance française depuis l'équipée de la famine. Comment aussi mal préparé, Denonville en vient-il à la fatale décision? Il cède à l'évidence d'une coalition anglo-iroquoise contre la colonie, évidence dont lui fournissent les preuves un espion envoyé à Manhattan et un missionnaire de l'Iroquoisie, le père Jean de Lamberville. Déjà d'ailleurs, point à retenir pour le partage des responsabilités, déjà les coalisés sont entrés en action. Une mission commerciale portant pavillon anglais s'est montrée à Michilimackinac. Parade, estime-t-on, à Québec et à Montréal, qui ne peut qu'allumer le feu dans l'Ouest. Montée sur une frégate de 25 canons, des pirates virginiens et bostonnais viennent exercer leur déprédation dans le Golfe et sur les côtes canadiennes. Au Canada, en quelques jours, les plus opposés à la guerre s'y convertissent. Dans des mémoires à la cour, M. de Calière, l'évêque de Québec, se prononce pour la suprême décision. Pour tous, le sort de la colonie est en jeu. Dès son arrivée, il est encore bon de le savoir, Denonville s'est pris d'enthousiasme pour la Nouvelle-France. Il y a vu les prémices d'un grand peuple qui aura l'honneur un jour, sous les auspices du plus grand roi du monde, de faire adorer le vrai Dieu à des nations infinies. On ne s'étonne plus qu'avec M. de Calière et l'évêque, il fasse parvenir en France cet avertissement prophétique. Si les Anglais continuent ainsi leurs entreprises et que le roi ne veuille pas qu'on leur fasse la guerre, il n'y a rien à espérer de cette colonie que sa perte. Dès 1686, Denonville ouvre les hostilités par une première expédition contre la compagnie anglaise de la baie d'Hudson. Les motifs? Protéger les intérêts d'une compagnie française, garder les fourrures de l'immense région aux colons et aux fermes du roi, puis briser, sur un premier point, l'encerclement anglais de la colonie. Confiée au chevalier Pierre de Troyes, cette expédition de 100 hommes, 30 soldats de troupes régulières, 70 Canadiens, parmi lesquels trois des frères Lemoine, Sainte-Hélène, Malicourt, Iberville, reste l'une des plus fameuses de l'ancien régime. Partie à travers les terres et à la fonte des glaces, avec tout un matériel de siège, ces 100 hommes, après une marche de 3 mois, par l'Outaouais, le Témiscamingue, l'Abitibi, débouche sur la baie James, enlève d'assaut 3 forts ennemis, y installe bonne garde et rentre par le même chemin à Québec après une course de près de 2000 milles. En 1687, Denonville conduit contre les Sonantouans à grand déploiement, ce qui sera pour lui aussi son expédition de grand style. Par un vrai coup de maître, il réussit à jour fixe la jonction des forces de la colonie et celle des Indiens de l'Ouest. Quant au résultat, le mieux qu'on en puisse dire, c'est qu'il ne dépasse guère ceux de l'expédition Tracy 20 ans auparavant. Bourgades incendiées, pays saccagés, population en fuite, le bilan se répète. Forte d'environ 10 000 âmes, la nation Sonantouan se verra réduite de moitié par la misère, mais par manque de troupes, Denonville n'a pu encercler l'ennemi. Il ne renonce pas pour autant à la préparation d'autres campagnes, campagnes qu'il voudrait diriger celle-ci, contre tous les cantons à la fois. En même temps qu'il complète sa préparation, Denonville dépêche en France M. de Calière pour y plaider encore une fois la conquête de la Nouvelle-York. Le gouverneur a obtenu que les colons dispersés consentent à s'enfermer en des réduits. En 1688, le gouvernement de Montréal reprend l'aspect militaire qui, pendant si longtemps, lui fera un visage si pittoresque. Outre l'effort du Sceau pour les sauvages et ceux de la prairie de la Madeleine et de Saint-Lambert, 28 forts sont déjà élevés dans les seigneuries. Denonville a demandé à la cour 800 hommes de troupes. Champigny sollicite un budget de 133 000 livres. Au lieu de 800 hommes, la cour en envoie 150. Et Champigny voit son budget réduit de moitié. Bien pis, le roi désapprouve les fortifications de Montréal et la formation d'une compagnie de jeunes Canadiens jugée indispensable par le gouverneur. Ces jeunes gens, a-t-il écrit, étant plus entendu en ses manières de faire la guerre qu'aucun autre. Hélas, c'est déjà le commencement de l'interminable duo où les uns, gouverneurs et intendants, ne cessent de clamer les besoins, la détresse de la colonie et d'y joindre des avertissements prophétiques et où les autres, souverains et ministres, ne cessent pour leur part de commander l'économie, encore l'économie et l'art de faire quelque chose de rien. Denonville se rabat bien malgré lui sur une offensive de paix. Il y aurait peut-être réussi, du moins le crut-il, sans les intrigues d'Orange et de Manette et sans la ruse de Condillaron. Ce Huron, surnommé le Rat, accueille, assaille et tue en route quelques-uns des ambassadeurs iroquois venus de la colonie, puis, avec l'art de Machiavel, impute ce guet-apens à un ordre du gouverneur de Québec. Cet incident, plus que l'affaire des Galériens iroquois à faire trop grossi, rallume la guerre, guerre d'affreux massacres comme celui de la Chine. Cette fois, le gouverneur se montre par trop inégal à sa tâche, il a le bon esprit de demander son rappel. Mais au vrai, la paix, sans même l'affaire Condillaron, reste-t-elle encore possible? Et de la reprise de la guerre, faut-il tenir responsable Denonville? Le 12 octobre 1689, Frontenac vient le relever. Frontenac, le seul des gouverneurs de la Nouvelle-France qui ait obtenu un second terme d'administration. Singulier homme, dont un si grand nombre avait souhaité le départ et que tous accueillent comme un sauveur. Le rédempteur patrié dira longtemps, le désiré des nations s'écriera un récalé. Ce méridional, inutile de le nier, a du panache, du magnétisme. Il est même de ces rares personnalités auxquelles peut s'accrocher la légende. En quel état trouve-t-il le pays? Consternation générale, abattement dans les troupes, Ces mots font la note dominante en sa première dépêche au ministre. Réduites de 35 à 28 compagnies, les troupes harassées, mal payées, sont sur les dents. L'orage s'amasse sur toutes les frontières de la Nouvelle-France. Des rivages d'Acadie et de Terre-Neuve au Grand Lac et dans le sens nord-sud de la baie d'Hudson au pays des Iroquois et à la Nouvelle-Angleterre. En Acadie, les Anglais se comportent comme en pays conquis. Par le Golfe, les forbans de Boston poussent leur piraterie jusque dans le fleuve. Les hostilités sont déjà commencées au pays des Abénakis, point névragique où s'amorcent des contestations d'un demi-siècle. Le Massachusetts, qui a fondé sa fortune principalement sur la mer et sur les pêcheries, tend de hausser tant qu'il peut sa frontière maritime. Plus à l'ouest, les gouverneurs Dongan et Andros tiennent les Iroquois pour des sujets britanniques, organisent avec eux des conseils de guerre, inspirent la diplomatie et la politique des cantons, nouent plus solidement chaque jour la coalition anglo-iroquoise. Plus à l'ouest encore, c'est après le massacre de la Chine et le désarroi qui s'ensuit, un nouvel effondrement du prestige français parmi les nations hurones et outaouaises qui ne cherchent plus qu'à s'accommoder avec les Iroquois. Les forts Niagara et Frontenac ont été abandonnés. Frontenac ne force nullement les mots lorsque, dans une plainte volontairement hautaine, il se dit acculé à faire au moins deux miracles, car il en faut presque un qui retire au ministre pour faire la paix et un autre encore plus grand pour soutenir la guerre sans de nouveaux secours. L'heure de la paix, Frontenac le savait, était bel et bien passée. Le 17 mai 1689, le prince d'Orange avait déclaré la guerre à Louis XIV. Dans une lettre datée de Marly du 25 juin de la même année, le roi avait demandé à Denonville de courir su aux Anglais. La guerre officielle succédait à la guerre larvée, et c'est ici, pour leur dire que l'on s'explique mal, à moins qu'il ne soit volontaire, et dissimulation diplomatique plus que raison politique, l'aveuglement ou la myopie de la cour de France. Elle paraît n'avoir rien pressenti des événements prochains d'Amérique. Elle n'a pas aperçu, semble-t-il, le rapprochement en train de se produire entre les fils prodigues ou proscrits et la patrie d'hier. L'Angleterre a travaillé à cette réconciliation pour régler à son profit l'industrie et le commerce de colonies d'un esprit d'initiative devenu inquiétant. Dès ce temps-là, elle les a même poussés à une fédération rattachée à la couronne britannique et les colonies anglo-américaines se sont rapprochées de la métropole dans l'espoir d'attirer des capitaux, de trouver des débouchés à leur commerce et surtout d'obtenir quelques secours contre un voisin aux agissements équivoques. Mouvement convergent que vient favoriser de façon singulière l'avènement de Guillaume d'Orange au trône d'Angleterre. On se figure à peine l'exaltation qu'en éprouva en Amérique le sentiment protestant. Un courant d'insurrection et d'allégresse a couru de Boston au Chesapeake. Pendant le siècle et demi de son existence coloniale, l'Amérique, écrira Bancroft, n'a jamais connu pareille réjouissance. Aussi sera-ce un peu une guerre sainte que les colonies vont préparer contre le Canada. Le 8 mars 1690, le Massachusetts avait lancé l'idée d'une convention de toutes les colonies anglo-américaines. Le 1er mai, à l'appel de New York, 8 des 12 colonies tiennent ce que l'on pourrait appeler le premier congrès des États-Unis. Quatre d'entre elles, le Massachusetts, Plymouth, le Connecticut, New York, qui jouissent du self-government, décident une double invasion du Canada par terre et par mer. On aperçoit d'où la guerre est partie. Les événements d'Europe y ont contribué encore plus que les événements d'Amérique. Les Anglo-Américains savent maintenant qu'ils peuvent compter sur l'appui de la métropole. Un moment hésitant, les Iroquois savent pour leur part qu'ils pourront compter à fond sur l'aide de leurs voisins. Contre pareille conjonction de force, que peuvent bien l'habile diplomatie de Frontenac, son ascendant sur les Iroquois. Affronter la double guerre, l'Iroquoise et l'Anglaise sera le lot du gouverneur. L'année même de son retour, il a vu s'effondrer ce qui aura pu être la diversion libératrice. Lui et Callière étaient revenus de France, chargés d'un vaste projet. Le roi s'était laissé gagner une expédition militaire contre la Nouvelle-York. Un monsieur de la Caffinière devait se rendre en droite ligne de France avec deux vaisseaux de guerre, faire le siège de Manhattan, pendant qu'une armée de 900 hommes de troupes et de 600 habitants s'en irait par les terres prendre Orange, puis se rabattre sur Manhattan pour en compléter l'investissement. Un départ tardif de la Caffinière, une trop longue traversée, l'arrivée également tardive de Frontenac et de Callière au Canada à l'automne de 1689 furent ratés de projet, comme les mêmes circonstances en feront rater quelques autres. La guerre inévitable va donc reprendre. Nous en sommes à la deuxième et troisième phase. Dans la première, les Anglais se sont battus par personnes interposées. Dans celle-ci, Frontenac aura véritablement sur les bras la coalition anglo-iroquoise.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx. président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française.